Il est 8h.
Là, la gestion des résultats positifs, elle va être beaucoup plus efficace que si on doit attendre les résultats plus longtemps que 15 minutes.
Ils seront nettement plus rapides et c'est sans doute la solution contre les délais parfois extrêmes pour avoir les résultats. La nouvelle génération de tests du Covid doit arriver le mois prochain en France. Olivier Véran appelle les personnes âgées à se protéger encore davantage. Les patrons de maisons de retraite lui répondent sur Europe 1 demandant d'urgence des personnels supplémentaires. Une hécatombe économique dans un secteur de proximité. 2000 fleuristes ont fermé boutique depuis 6 mois. C'est une information Europe 1. Dans ce journal, les soufflantes passées par le Premier ministre. Jean Castex sait qu'il n'est pas là pour se faire des amis. Nous irons en Slovénie, où les audiences télé du Tour de France ont doublé alors que ses coureurs mènent la grande boucle en ce moment. Et puis, que sont devenus les millions d'euros du loto du patrimoine? Réponse dans 10 minutes, dans un théâtre centenaire et sur un aqueduc romain.
Le gouvernement hausse le ton, l'épidémie gagne du terrain, de nouvelles restrictions sanitaires sont en vue. À 8h15, Sonia Mabrouk reçoit Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Soyez les bienvenus dans Europe Matin, il est 8h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Les cas contacts de cas contacts ne sont pas des cas contacts. Olivier Véran a voulu faire de la pédagogie hier, conférence de presse, pour marteler, réexpliquer les protocoles, les consignes à l'école, dans les crèches, mais aussi dans les centres de dépistage. En une semaine, 1 200 000 tests ont été réalisés en France. C'est un record, certes, mais à quoi bon quand les résultats arrivent parfois 12 jours plus tard?
Pour y remédier, le ministre de la Santé évoque la commande de nouveaux types de tests nettement plus rapides. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour Mathieu.
On parle là de tests antigéniques. De quoi s'agit-il?
Ce sont en quelque sorte les jumeaux des tests de dépistage PCR que l'on connaît bien. Pour les prélèvements, c'est exactement pareil, le coton-tige dans le nez. La différence, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire analyser ensuite les échantillons. Ils contiennent déjà un réactif qui change de couleur au contact du virus. Le processus dure un gros quart d'heure. Un gain de temps essentiel pour casser les chaînes de contamination, explique Samira Fafi-Kremer de l'Institut de virologie de Strasbourg.
L'intérêt, c'est d'avoir le patient tout de suite à côté. On pourrait le garder et puis tout de suite avoir cette possibilité de lui dire qu'il est positif et donc quelles sont les précautions qu'il doit prendre, quels sont les contacts qu'ils avaient. Donc effectivement, là, la gestion des résultats positifs, elle va être beaucoup plus efficace que si on doit attendre les résultats plus longtemps que 15 minutes.
Si les expérimentations n'ont commencé que cette semaine, c'est parce que les essais cliniques des premières versions de ces tests n'étaient pas assez fiables. D'ailleurs, aux hôpitaux de Paris, en charge justement de l'expérimentation, chaque patient positif est testé une seconde fois avec le PCR classique, d'où un appel à la prudence hier du ministre de la Santé Olivier Véran. Mais malgré ce principe de précaution, malgré l'absence encore d'avis de la Haute Autorité de Santé, la France a d'ores et déjà commandé 5 millions de ces tests antigéniques, donc, retenez le terme, ils sont attendus pour le mois prochain.
Les explications de Pierre Herbulot en direct pour Europe 1.
Et puis parmi les déclarations du ministre de la Santé hier, une phrase très forte à l'égard des personnes âgées.
Vous êtes les personnes les plus fragiles face au Covid et notamment face aux formes graves de la maladie. C'est pourquoi je vous demande de vous protéger encore davantage, de redoubler tous vos efforts, y compris celui le plus difficile, qui consiste à réduire encore le nombre de personnes que vous voyez chaque jour.
Alors on sait que pour les résidents des EHPAD, le confinement avait été très douloureux pour le moral. Olivier Véran leur demande donc ce nouveau sacrifice. Pas si simple, répond ce matin Romain Gisolme de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Il lance sur Europe 1 un appel pour recruter des salariés.
Aujourd'hui, nous sommes face à des professionnels qui sont épuisés, éreintés et pour certains désabusés. Ils étaient là lors de la première vague, mais ils nous disent qu'ils ne seront pas là dans ces conditions pour la deuxième s'il y en avait une deuxième. Il y a urgence à ce que l'État aujourd'hui investisse dans ce secteur, crée de l'emploi. Et de ce point de vue-là, nous sommes en attente que l'État fasse un geste fort pour soutenir ce secteur. Et ça, c'est un des éléments sur lequel il faut agir très rapidement.
Romain Gisolme qui était ce matin en direct à 6h40, l'invité de Sébastien Krebs.
C'est l'essence même du commerce de proximité. Les fleuristes, ils ont toujours le bon conseil, ils suivent les saisons. Ils nous accompagnent lorsqu'on a quelque chose à célébrer ou même lors d'un deuil. Cette profession est terrassée par la crise.
Olivier Samin, vous nous révélez ce matin les premiers résultats d'une étude de l'interprofession du végétal avec un chiffre particulièrement effrayant.
Oui, 2000 fleuristes qui ont baissé définitivement leur rideau, autrement dit, un fleuriste sur 7 en France. Il y a d'abord eu le coup de massue de la fermeture obligatoire de leur magasin dès le début du confinement, avec un stock de fleurs qu'ils avaient acheté et qu'ils ont dû jeter, ce qui a plombé leur trésorerie déjà structurellement fragile. En juin, c'est vrai, les Français se sont remis à s'offrir des fleurs, mais ça n'a pas suffi. dit Michaël Mercier, le président de l'interprofession du végétal, car dans le même temps, une grosse partie de leur activité est restée à l'arrêt.
Il n'y a pas eu de sépulture comme c'est fait habituellement. Il n'y a pas eu non plus de mariage, et c'est une grosse activité pour les fleuristes. Et plus globalement, il n'y a pas eu non plus en France de séminaires d'entreprise, de congrès. Et pour les fleuristes qui sont également dans les grandes villes, il n'y a pas eu de touristes étrangers qui sont venus dans les hôtels. Et donc pas de fleurissement de fait dans les hôtels parce qu'ils étaient fermés.
L'ennui, c'est que les congrès, les séminaires, la fréquentation des hôtels, c'est encore en céphalogramme plat. D'où la crainte des fleuristes. À la fin de l'année, ce ne sera pas 2000 fermetures, mais probablement plus.
Olivier Samin, vous signez cette information Europe 1 ce matin. La SNCF mettra environ 2 ans à retrouver le trafic d'avant la crise, indique son PDG Jean-Pierre Farandou au journal Les Échos ce matin. Il évoque le manque des grands salons professionnels. La SNCF va par ailleurs simplifier sa tarification, promet-il.
La politique. Depuis l'été, plusieurs tensions au sein du gouvernement sont venues ternir la rentrée de Jean Castex.
Le débat entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sur le terme d'ensauvagement, ou encore cette semaine, l'écologie contre les transports sur l'écotaxe. Alors, le Premier ministre manque-t-il d'autorité ? La réalité ne serait pas aussi simple. Le décryptage de Jean-Rémy Bodo.
Au sein du gouvernement, parmi les ministres, dans les cabinets, 2 camps s'affrontent. Il y a ceux qui sont déçus par la rentrée de Jean Castex, regrettent ses déplacements à répétition, fustigent un manque de légitimité. J'ai l'impression de voir Jean-Marc Ayrault, persifle un conseiller. À l'opposé, d'autres plébiscitent la méthode. Tout est très direct. Il n'est pas là pour nous materner, lâche un collaborateur. À Matignon, on tente de prendre de la distance, même quand des ministres s'affrontent. Que des sensibilités s'expriment, c'est heureux, affirme un conseiller avant d'insister. À la fin, est-ce que les décisions sont respectées ? La réponse est oui. Fin de citation. Avant sa nomination, Jean Castex avait la réputation d'un haut fonctionnaire parfois dur. Ils sont nombreux à se prendre des soufflantes, confirme le conseiller d'un ministre. Ça file droit, reconnaît l'entourage de Jean Castex. En privé, le Premier ministre répète d'ailleurs régulièrement « Je n'ai pas accepté cette mission pour me faire des amis ».
Jean-Rémy Bodo du service politique d'Europe 1. C'était au cœur de l'été, le 9 août dernier, une attaque contre des humanitaires français au Niger. 6 d'entre eux, de l'ONG Acted, avaient été tués avec leur guide et leur chauffeur.
Jean-Sébastien Soldaini, nous sommes plus d'un mois plus tard et l'État islamique a revendiqué cette attaque.
Le canal de revendication est bien connu, Al-Naba, un hebdomadaire de propagande qui arrive chaque semaine sur les sites fréquentés par les djihadistes et qui liste toutes les actions de Daesh. Le texte s'accompagne de 2 images, probablement tirées d'une vidéo où les victimes apparaissent à genoux, visage ensanglanté, peu avant d'être exécutées. Le document est identifié par des experts des groupes terroristes, mais cette revendication pose question. Très peu de détails sur l'attentat en lui-même et puis... il y a le timing. Plus d'un mois après les faits, laissant imaginer que les auteurs ont pu attendre avant de prêter allégeance à Daesh. Le texte ne dit pas non plus si cette action a été préméditée ou bien si elle s'est faite au hasard d'une rencontre avec les hommes armés. Quant à la description des victimes, il est fait mention de 6 croisés français, en aucun cas d'humanitaires, comme si le message envoyé était une mise en garde plus large pour éloigner aussi les simples visiteurs de cette réserve naturelle.
Aux États-Unis, un meeting de Joe Biden en mode drive-in. Hier soir à Scranton, en Pennsylvanie, le candidat démocrate à la Maison-Blanche a pris la parole devant une centaine de spectateurs restés dans leur voiture. « Ce président devrait démissionner », déclare Joe Biden à l'adresse de Donald Trump, dont il critique la gestion presque criminelle, dit-il, de la pandémie.
Il est 8h08 sur Europe 1. Les nouvelles stars du Tour de France. Il fallait être très connaisseur du vélo pour avoir en tête, il y a encore 3 semaines, les noms de Primoz Roglic ou de Tadej Pogacar, les 2 Slovènes solidement en tête de la course.
Eh bien, ce matin, nous voulions vous emmener chez eux, dans ce pays d'à peine 2 millions d'habitants, où ces derniers jours, la passion pour le Tour de France grimpe aussi fort qu'un col hors catégorie. Bonjour Théo Manval.
Bonjour François.
Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Ljubljana. Théo, les Slovènes se sont emparés du Tour et le Tour a conquis la Slovénie.
Ah oui, chaude ambiance dans certains cafés lors de la bataille des fins d'étape. Supporters massés par dizaines devant leur télévision. Ce que vous entendez derrière moi, ce sont les derniers kilomètres de l'étape alpestre d'hier au vélo-bar de Ljubljana où, maillot jaune comme Roglic sur les épaules, la patronne Petra vit un rêve éveillé.
C'est extraordinaire, on s'attendait tous à ce que Roglic fasse quelque chose. Mais les deux, avec Pogacar qui attaque tout le temps, c'est vraiment fou. On est très fiers, on les regarde tous les jours, on crie, on les encourage. sondages.
Et les audiences télé ici ont explosé, François, plus 109% par rapport à l'an passé. Un Slovène sur trois regarde la course en fin d'après-midi. Certains ont même adapté leurs horaires de travail, voire plus, comme Nate.
J'ai posé une semaine de vacances juste pour regarder le Tour. Ce qu'ils font, c'est grand pour la Slovénie. Tout le pays est derrière eux.
Il faut dire que deux champions en haut de l'affiche pour un pays qui compte seulement 1600 coureurs licenciés en club, c'est assez inédit, le sujet de toutes les conversations. Ils font l'histoire, dit ce quadragénaire. Même ma mère à 62 ans, c'est désormais tout sur le vélo, en braye un autre. La fièvre promet d'être à son maximum jusqu'à dimanche. Certains bars ont même prévu des feux d'artifice, si le doublé se confirme.
C'est ce qu'on leur souhaite éventuellement. Les Français sont un petit peu trop loin pour le moment. Merci Théo Manval, en ligne de Ljubljana en Slovénie pour Europe 1.
C'est un événement qui tient au cœur des Français depuis 37 ans maintenant. Les Journées du patrimoine, format réduit cette année avec l'annulation à Bordeaux, Marseille, Nice ou encore à Lille.
Ailleurs, la jauge sera limitée. Alors pour vous consoler, si vous êtes joueur, il y a le loto du patrimoine et son jackpot de 13 millions d'euros demain, dont une partie des profits sert à sauver des monuments en péril. La première édition, c'était en 2018, 18 monuments en avaient bénéficié. Alors, deux ans plus tard, où en sont ces chantiers? Romain Hoquet a la réponse avec ce reportage.
En extérieur, déjà, on voit vraiment que le projet avance, que le théâtre va revivre. Donc, c'est ça qui suscite une émotion et c'est très concret, quoi.
Un théâtre centenaire dans la Meuse, une ruine qu'Anthony Marty, un passionné, a racheté. En 2018, le loto du patrimoine lui donne 360 000 euros. Six mois plus tard, le chantier de restauration démarre.
Tout le gros œuvre est en phase d'être terminé. Toutes les toitures sont reprises, toutes les menuiseries, toutes les fenêtres ont été changé, près d'une quarantaine de fenêtres, ça a pu se faire très 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 vite.
Dans le Rhône, l'enveloppe que Damien Combet a récupérée après le loto, c'est à peine 5% du prix du chantier. Le sauvetage de l'aqueduc romain de sa commune, il le doit surtout au coup de projecteur qui suit l'opération. Pour tous ces monuments, la fréquentation explose et attire de nouveaux investisseurs.
C'est un accélérateur, ça a permis de mettre autour de la table les partenaires historiques financiers que sont la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, et du coup, apporter des contributions financières plus importantes dans des délais plus courts.
Lui peut espérer terminer les travaux dans 3 ans au lieu de 15 initialement. Des monuments qui, même en chantier, seront pour certains ouverts ce week-end.
C'est l'un des seuls festivals rescapés de cette crise. Cette semaine, à Bourges, se tient Les Inouïs, le festival pour artistes émergents du printemps de Bourges.
Oui, c'est comme un concours. Hein. 34 artistes ont pu jouer cette semaine devant les professionnels du secteur. Christina de Queens, Eddie Depreto viennent de ce tremplin musical. Alors, qui sont peut-être les artistes de demain? Réponse avec Angèle Châtelier.
La favorite des Inouïs du printemps de Bourges cru 2020 a un nom de scène robotique, PR2B, pour Pauline Rambaud de Barallon, son vrai nom. Biberonnée à Serge Gainsbourg, PR2B fait partie de cette nouvelle génération de chanteuses à succès dans la lignée de Juliette Armanet.
J'avais ma couleur de spleen et vert de tuile.
Diplômée de la FEMIS, prestigieuse école de cinéma, PR2B a grandi à Bourges. Et la musique, c'est une histoire de famille. Dans la maison, son père avait un studio.
Il s'enfermait des heures à fumer des gauloises brunes sans fil. Et du coup, je passais des heures à jouer avec lui. Bon, la plupart du temps, je malmenais ses accordéons. Et donc, je l'ai beaucoup vu répéter. Mais on a aussi pas mal joué ensemble.
Mais PR2B est en course avec 33 autres artistes, comme les rockers Bandit Bandit ou encore la rappeuse Alicia, présente sur le dernier album de Grand Corps Malade.
On lui a dit juste tais-toi et bouffe.
Autre gagnant potentiel, Terrier, 26 ans, moitié slammer, un peu rappeur, à la production épurée, aux paroles désenchantées. Il jouait mercredi devant 500 personnes et depuis, dans les ruelles de Bourges, beaucoup murmurent que c'est l'une des révélations de cette 9e édition.
Un reportage à Bourges d'Angèle Châtelier. Le football, 2-0 pour Saint-Etienne au Vélodrome. Première victoire des Verts à Marseille depuis 41 ans. Hier soir, ils prennent la tête de la Ligue 1. Et puis le Servette de Genève battu à domicile 1-0 par Reims en Ligue Europa.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.